Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, bon réveil en ce jeudi 25 avril, bientôt le week-end peut-être pour vous, tiens encore, on est jeudi, il reste vendredi et après c'est le week-end, on va se donner un peu de courage ensemble pour cette fin de semaine, évidemment comme tous les jours, en direct, vous connaissez la recette hein, de Charles Matin, de l'info, du débat, de la bonne humeur et Géraldine Demory, évidemment l'ingrédient indispensable de Charles Matin, salut Géraldine.
Salut Martin, bonjour à tous.
Ça va ce matin?
Bah ouais écoute, ça a pleine forme.
Si je t'emmène à Venise, est-ce,
ouais.
que
ton, ah, moi,
ton,
oui.
est-ce que ton compagnon il serait jaloux ou pas?
Oh bah débrouille-toi avec
je
lui.
Je me débrouille avec lui.
Je viens.
Bon alors par contre c'est toi qui payes.
Ah bah ok.
En tout cas c'est toi qui payes la taxe puisque une taxe va arriver à Venise et mise en place à partir d'aujourd'hui. On sera sur place avec notre envoyé spécial Caroline Film juste après le journal de 6h. Mais donc il y a une taxe qui entre en vigueur
ouais.
aujourd'hui.
5 euros de péage en fait pour la touriste d'un jour. Donc c'est si vous n'avez pas réservé au moins une nuit d'hôtel. C'est une décision qui fait polémique hein, parce que l'idée c'est de lutter contre le super tourisme, hein, les trop grandes affluences.
Et c'est une première mondiale. Jamais aucune ville n'avait mis ça en place. Il y a d'autres mesures qui existent dans d'autres endroits, au Japon, en Grèce, en Espagne. Et ça fait débat, évidemment. On veut vous entendre ce matin sur cette question. Est-ce qu'il faut faire payer l'accès aux villes touristiques? Appelez-nous, par exemple, notamment si vous habitez dans une ville particulièrement fréquentée par les touristes, peut-être trop fréquentée à votre goût. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre en place un péage ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que bah, c'est une mauvaise idée parce que ça pourrait priver la commune, on pourrait se priver de recettes du tourisme?
En même temps, si tu vas à Venise, t'as les moyens de payer 5 euros pour rentrer dans la ville.
Oui, t'as les moyens. Et puis peut-être que aussi, on voit ça d'un bon œil parce que ça permet peut-être aussi d'avoir moins de touristes. C'est vrai que des fois, ça casse un peu le charme du tourisme, de voir du tourisme en masse, une industrie du tourisme dans certains endroits.
Après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres solutions. À Marseille, par exemple, ou pour les Calanques, où là, il y a
des quotas.
Voilà, exactement. Donc, certains jours.
C'est des quotas qui sont mis en place. Chaque endroit essaie de trouver des solutions face au tourisme de masse. Ouais, venez nous dire, quelle est la meilleure solution pour vous, plus généralement, est-ce que vous seriez prêt à payer pour accéder à certaines villes en tant que touriste ou est-ce que bah, ce ticket d'entrée vous ferait renoncer? Est-ce que ça permettrait de redonner un peu de magie, comme je le disais, hein, à certains lieux? Je voyais par exemple qu'au Mont Fuji, des fois, les randonnées pour escalader le Mont Fuji, ça se fait en file indienne, tellement il y a de monde. Ça gâche un peu, évidemment, j'imagine, l'expérience. On en parle tous ensemble, en tout cas ce matin, au 32-16 sur l'appli RMC, sur l'onglet Direct Studio. Vous nous appelez, vous laissez vos messages et vous intervenez évidemment quand vous voulez à l'antenne pour parler de tout ça.
Tiens, tu parlais de Venise, mais on ira aussi à Madrid dans la story d'Alex Biggerstaff, Richard Gasquet, qui va jouer là-bas le millième match de sa carrière. Alors ça, ce sera à 5h40 hein, dans la bande. Anthony Morel sera également présent. Anthony qui a plein d'astuces tech pour éviter le vol de voiture.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et Thomas Schnell est là pour vous donner toutes les infos. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Compte obtenu les contrôleurs aériens pour lever le préavis de grève. Le mouvement est suspendu, mais les turbulences dans les aéroports sont maintenues. Un adolescent interpellé soupçonné d'avoir préparé une action violente pour les Jeux Olympiques. Et puis Rafael Nadal ne rassure pas sur sa présence à Roland-Garros.
Un accord a donc été trouvé in extremis entre les contrôleurs aériens et l'aviation civile.
Après avoir fait craindre un mouvement de grève inédit dans son ampleur, le syndicat majoritaire accepte de lever le préavis après la conclusion d'un accord. Marion Gauthier, que sait-on de ce qui a été signé hier?
Il reste discret, mais le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien aurait obtenu gain de cause sur la majorité de ses revendications. Question de statut, d'organisation des tours de service, mais aussi question d'argent. Une partie de la paye des aiguilleurs du ciel est faite de primes. Il s'agirait de les compter un peu plus dans le calcul de la retraite. Se chuchote aussi la possibilité d'une augmentation. Ils veulent nous faire travailler plus, le salaire doit suivre, résume un contrôleur anonymement. Mais la direction ne nous a donné aucun chiffre, tout est très flou, s'agace d'autres syndicats. Un responsable s'insurge d'être ainsi tenu à l'écart des négociations. Tout juste une heure de réunion hier midi, rapporte-t-il. L'UNSA, ICNA et l'USAC CGT ont donc maintenu leur préavis de grève pour aujourd'hui, pour le mois de juin également, précise l'UNSA. Des rencontres sont prévues entre les partenaires sociaux et la direction lundi et mardi prochain.
Préavis de grève levé pour aujourd'hui, mais trop tard. Des dizaines de vols seront annulés dans les aéroports. 75% d'annulations à Orly, 65% à Marseille et 45% dans les autres.
Un jeune de 16 ans projetait une action violente pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été dans le quartier de la Défense.
Il voulait mourir en martyr. Les policiers sont parvenus à l'arrêter chez lui en Haute-Savoie et ont retrouvé une lettre d'allégeance au groupe État islamique. Le jeune âge du suspect surprend Jérôme Poirot. Il était l'un des plus hauts placés des services de renseignement.
C'est très difficile à imaginer qu'un jeune de 16 ans puisse préparer un attentat terroriste. Il y a quand même de quoi avoir des sueurs froides. Les services de renseignement n'ont pas l'habitude de surveiller des adolescents aussi jeunes. Un jeune seul, un type de menace nouveau, extrêmement difficile à entraver, sauf s'il y a des maladresses qu'il a faites lui-même, c'est-à-dire en publiant ce message sur les réseaux sociaux indiquant qu'il était à la recherche de ceintures d'explosifs. C'est le travail de la surveillance des réseaux sociaux qui a permis de détecter cet individu.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé une vidéo d'un des otages israéliens enlevés pendant les attaques du 7 octobre. L'otage apparaît seul sur l'écran. Il est assis sur une chaise en plastique devant un mur blanc. Il se présente comme Hersh Goldberg Polin, âgé de 23 ans. Il a été enlevé lors du festival de musique Nova.
RMC 5h03, Kenji Girac maintient sa déclaration. Sa blessure par balle est un accident.
Toujours hospitalisé près de Bordeaux, le chanteur a été entendu pour la première fois par les enquêteurs. Pierre Bourgès, l'artiste de 27 ans, confirme l'erreur de manipulation de l'arme.
Effectivement, pendant près de 3 heures, les enquêteurs ont interrogé le chanteur. Il confirme la version qu'il avait donnée au secours. Il se serait lui-même tiré dessus en voulant manipuler l'arme. D'après les premières constatations, Kenji Girac était très alcoolisé au moment des faits. Les enquêteurs ont pu également établir que sa femme et sa fille étaient présentes au moment du coup de feu. Coup de feu tiré depuis l'intérieur de la caravane. Le chanteur, touché au poumon et à l'intestin, entame son 4e jour à l'hôpital. Des dizaines de proches étaient encore sur place hier pour le soutenir.
Au moins 2 millions de bouteilles de Perrier détruites par le groupe Nestlé à cause d'un risque de contamination aux matières fécales. Mesure de précaution selon la marque qui évoque une déviation apparue à la suite des fortes pluies de mars. Il n'y aurait pas de risque avec les bouteilles actuellement en magasin, assure Nestlé. S'en remettront-ils à la Cour européenne des droits de l'homme? Les époux Fillon ont été condamnés par la Cour de cassation dans l'affaire des emplois fictifs à l'Assemblée nationale. La peine en appel et les dommages et intérêts, eux, feront l'objet d'un nouveau procès.
Allez, on en vient à cette première mondiale contre le surtourisme. Venise expérimente le ticket à la journée.
5 euros pour accéder à la ville pour les visiteurs journaliers sur les périodes de forte affluence. La mesure est expérimentée à partir d'aujourd'hui. Caroline Philippe, ce ticket vise à contenir la fréquentation mais ne fait pas l'unanimité pour l'instant.
Sur les ponts étroits, les places bondées, Laurent et sa famille se frayent un chemin.
J'entends plus souvent parler français qu'italien presque. Ça brise un peu le charme, naturellement.
Mais ce n'est pas un ticket à 5 euros qui le dissuadera de venir.
Ça ne nous empêchera pas de visiter Venise et même d'y revenir plusieurs fois s'il le faut. Après, il faut aller sur Internet, il faut s'enregistrer, il faut essayer de voir si effectivement on sera ou pas compté dans les touristes de passage. Donc c'est un peu plus contraignant pour nous.
C'est plus que ça pour Sophie, l'aide-soignante alsacienne, touriste d'un jour sagace.
Pour visiter un monument qu'on paye, ok, mais pas pour se promener. C'est déjà assez cher comme ça, partout, parce que sinon, alors on arrête le tourisme. Ou que pour les riches, encore pour les riches. Et pas pour les gens, monsieur et madame, tout le monde.
Et c'est ce qui inquiète Xoni dans son restaurant de spécialité italienne. Et si ce ticket détournait trop de touristes?
Ce n'est pas très agréable de devoir payer ce ticket. Et ce sera plus difficile pour les habitués de revenir année après année. La fréquentation va chuter.
Cette année, ce ticket sera obligatoire seulement 29 jours, des dates de grande affluence à Venise.
Voilà, un ticket à 5 euros pour entrer dans la ville pour les visiteurs d'un jour. Est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre le surtourisme, contre le tourisme de masse? Venez nous le dire ce matin. matin sur RMC. Vous faites le 32-16, vous laissez vos messages sur Direct Studio. Est-ce que vous seriez prêt à payer 5 euros pour visiter une ville, hein, pas un bâtiment, on parle d'une ville, de se balader dans une ville, payer 5 euros pour ça, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous trouvez que voilà, si vous habitez dans une ville particulièrement fréquentée, est-ce que vous aimeriez, vous, que des taxes soient mises en place pour retrouver un peu de tranquillité, puisque c'est le but de ces taxes, notamment à Venise, donner un peu de tranquillité dans la ville, rendre la ville plus vivable. Vous nous appelez au 32-16 et vous laissez vos messages sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
Paris devra attendre avant d'être sacré champion de France de football, cela malgré sa victoire 4-1 à Lorient. C'est Monaco qui retarde l'échéance en battant Lille 1-0 à domicile. Les joueurs de Luis Enrique doivent donc patienter avant de remporter le championnat pour la 12e fois. L'entraîneur parisien était malgré tout satisfait du sérieux de ses joueurs.
On est encore en lice dans toutes les compétitions. Il reste encore un mois avant la fin de la saison. Je suis très content, satisfait, mais je regarde ce qui nous attend encore. On va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes.
Et de leur côté, Marseille et Nice ont fait match nul au Vélodrome. Et puis je vous raconte cette histoire d'une guitare retrouvée 50 ans après avoir été perdue. Mais c'est pas n'importe quelle guitare, c'est une guitare de John Lennon. Le Beatles a joué pendant des années dessus avant de la donner gratuitement à un musicien écossais, Gordon Waller, qui l'a remis à son manager. Elle l'a fini dans un grenier pendant 50 ans en Angleterre. Elle a été retrouvée. Il s'agit, pour les connaisseurs, d'une Framus 12 string Outagnani.
Okay.
Et voilà, le prix de l'instrument, lui, parlera au plus grand nombre, entre 600 et 800 000 dollars mis aux enchères.
Bon, c'est pas cher payé, une guitare de John Lennon.
Après, est-ce que tu joues aussi bien que John Lennon grâce à cette guitare?
Mais en plus, une 12 cordes, c'est compliqué.
Alors, on peut jouer avec, puisque la maison qui la met aux enchères l'a restaurée pour qu'on puisse à nouveau faire vibrer ses cordes.
Et donc, elle prenait la poussière dans un grenier, cette guitare.
Depuis 50 ans, dans un grenier.
C'est impressionnant.
Fouillez dans vos greniers, on sait jamais.
On sait jamais, ça peut valoir le coup. Vous pouvez devenir riche éventuellement si vous retrouvez une guitare de John Lennon. Pourquoi pas? C'est la bonne surprise. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau journal. Géraldine, on va faire un petit tour sur Direct Studio. Ce matin, on parle de cette taxe de 5 euros là pour mise en place à Venise à partir d'aujourd'hui pour les touristes d'un jour. Ça commence à faire réagir.
Ça, oui, tout à fait, ça fait réagir et ça vous divise hein, surtout. Tiens, on a Steve qui nous dit 5 euros quand on est tout seul, ça va, mais en couple avec deux enfants, ça monte tout de suite à 20 euros par jour
pour
la visite.
On va préciser, hein, actuellement à Venise, c'est 5 euros pour les plus de 14 ans. Moins de 14 ans sont exclus de cette mesure.
Enfin, tu viens avec ta femme et deux ados. Ça peut vite monter. Stéphane, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que c'est pas cher payé cette taxe hein, pour éviter le tourisme de masse, qui est un problème beaucoup plus important donc qu'une simple taxe de 5 euros.
Voilà, le débat est lancé sur Direct Studio. Vous aussi, venez y participer. Vous laissez vos messages. Vous nous appelez au 3216. Vous venez nous dire si c'est une bonne idée de mettre une taxe de 5 euros pour lutter contre le surtourisme, pour lutter contre le tourisme de masse, redonner de la tranquillité aux habitants, redonner aussi un peu de magie aux visiteurs qui viennent, parce que quand on se balade dans des rues bondées, c'est vrai que ça gâche un peu parfois le côté carte postale qu'on peut chercher.
C'est difficile de faire la belle photo
Après,
avec l'intelligence artificielle, on les enlève les gens. Mais...
Oui, mais même au-delà de la photo, c'est vrai qu'on en profite plus quand il y a un peu moins de monde dans les rues.
Et puis le respect de l'environnement.
Exactement.
Aussi, parce que tous ces touristes, ça abîme l'environnement. Quand on est dans un environnement naturel, après il faut bien le préserver, parce que sinon il n'y en aura plus du tout.
Et il y a d'autres initiatives qui sont mises en place en France, notamment à ces quotas, t'en parlais Géraldine tout à l'heure, dans les Calanques. Il y a d'autres initiatives un peu partout dans le monde. Mais voilà, cette taxe sur les touristes, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense notamment ce matin aux commerçants, aux hôteliers, aux restaurateurs qui vivent dans les zones touristiques. Est-ce que vous verriez ça d'un bon œil? Est-ce que ce serait inquiétant pour vous de voir une taxe sur les touristes qui serait mise en place au niveau de votre commune? Appelez-nous au 3216, vous laissez également vos messages sur l'appli RMC Direct Studio. En attendant vos appels, nous à 5h10, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue avec l'actu. Question très difficile ce matin, vu tout ce qu'on vient de dire, Géraldine.
Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes?
Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup d'indices supplémentaires.
Non,
on en a pas mal parlé déjà. La réponse, vous l'avez forcément. Donc, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16 pour espérer être tiré au sort et essayer de gagner un joli cadeau.
Oui, un très beau radio réveil de la marque Muse. Comme ça, plus d'excuses pour être bien à l'heure pour le début de Charles Matin.
Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes? Si vous avez la réponse, Vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
RMC Police Justice, votre rendez-vous PJ, comme tous les matins avec le chef du service Police Justice d'RMC ce matin, Guillaume Biais, bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez l'arrestation d'un gang de pilleurs de cimetières qui aurait volé des centaines d'ornements en bronze.
Oui, des statuettes, des croix, des bénitiers, tout ce qui pouvait être en bronze et donc avoir de la valeur au prix du métal. D'après les gendarmes, plus de 300 vols de ce type auraient été commis par la même bande ces derniers mois dans une quarantaine de cimetières de l'Est de la France, dans le Haut-Rhin, les Vosges, le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Des vols sur les tombes, choquant évidemment pour les familles des défunts. 270 plaintes ont été déposées. Le préjudice financier s'élève à 175 000 euros. Alors, c'est la nuit que les suspects passaient à l'acte. Après avoir fait des repérages en journée, ils revenaient dans des cimetières isolés, dérobaient les ornements et ensuite ils allaient les revendre en Allemagne auprès de ferrailleurs peu scrupuleux. Il a fallu une longue enquête des gendarmes pour identifier les suspects et rassembler suffisamment d'indices. Au final, 4 personnes ont été interpellées, membres de la même famille. Un père d'une soixantaine d'années, ses 2 fils et une compagne. 4 ressortissants roumains, jusqu'ici inconnus des services de police. En garde à vue, ils ont partiellement reconnu les faits, sans pour autant exprimer de regrets. En attendant leur procès, ils ont tous les 4 été mis en examen et 3 d'entre eux sont depuis en détention provisoire.
Le récit de Guillaume Biais, le chef du service police justice d'RMC ce matin.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faut-il faire payer l'accès aux villes touristiques ? Venise est la première ville au monde à mettre en place ce système. Ça démarre aujourd'hui, un billet à 5 euros pour les touristes d'un jour, ceux qui ne dorment pas sur place. L'objectif, c'est de lutter contre les trop grandes affluences. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Venez nous le dire si vous habitez dans une ville très fréquentée par les touristes, trop fréquentée peut-être à votre goût. Dites-nous si ça vous tenterait ou pas. Est-ce que ce serait un bon ou un mauvais calcul de renoncer à une partie des recettes du tourisme, et puis en tant que touriste également, vous seriez prêt à payer pour accéder à une ville ou pas? Est-ce que ça permettrait pas de redonner un peu de magie à certains endroits? Je vois déjà à Raph qui nous appelle au 3216 et qui sera avec nous dans un instant. Venez vous aussi participer au débat, on vous attend au 3216. Mais juste avant de faire ce débat, on va retrouver RMC s'engage avec vous, Solène Leroux qui vient en aide à Christophe ce matin. Christophe qui connaît une bonne galère avec son compte personnel de formation.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Merci d'avoir choisi RMC, il est 5h15.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et bonjour Solène Leroux.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Solène, aujourd'hui, on parle reconversion professionnelle.
Oui, avec Christophe, 47 ans, après des années dans la gendarmerie nationale, il quitte l'uniforme à contre-cœur en 2010. La vie en caserne pèse trop sur sa famille. Il devient alors commercial, un emploi qui ne lui plaît pas beaucoup. Après une période de chômage, il a une idée qu'il partage avec sa conseillère Pôle emploi.
Je me suis dit, pourquoi pas les métiers de la sécurité ? Je lui avais demandé s'il n'y avait pas une équivalence quand on sortait de la gendarmerie. Il m'a dit non, il n'y a pas de ça, il faut vous inscrire et partir en formation.
Qu'à cela ne tienne, Christophe vide son CPF, le compte personnel formation, 1620 euros qui couvrent les frais de 7 semaines de formation défense, prévention, sécurité. Mais dès le premier jour, surprise.
On se présente et le formateur qui était un ancien gendarme me dit, avec ton diplôme de gendarmerie, tu as le droit à une carte professionnelle beaucoup plus étendue en plus. Pour l'emploi, ils avaient mon CV, ils avaient mon parcours, donc ils auraient dû savoir que cette formation était caduque.
Il contacte donc Pôle emploi pour récupérer l'argent de sa formation. L'organisme lui répond qu'il aurait dû se renseigner avant, ce qu'il a pourtant fait en regardant sur Internet. Et surtout, il a fait confiance à sa conseillère puisque c'est son travail. Résultat des courses, Pôle emploi, qui est devenu France Travail depuis, refuse de lui recréditer son compte. Et cet argent, aujourd'hui, il en a vraiment besoin pour se payer une formation secours incendie et évoluer professionnellement.
Bon Solène, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?
Avec Margot Boult, nous avons contacté la défenseur des droits. Malheureusement, pas de médiation possible en l'absence de preuves. Et oui, parce que, comme si ça ne suffisait pas, les échanges avec la conseillère de Christophe se sont faits en période Covid, exclusivement par téléphone. Nous avons donc insisté auprès de France Travail. Comme tout service public, l'organisme a une obligation d'information des usagers. C'est ce que nous leur avons rappelé. France Travail dit présenter ses excuses. L'organisme s'engage à recontacter Christophe très rapidement. On y veillera. Pour le CPF vidé, en revanche, pas de miracle pour le moment. C'est au niveau de la Caisse des dépôts que ça se joue, nous a-t-on dit. On va évidemment pousser de ce côté pour que notre ancien gendarme récupère ce qui lui manque.
Et on sait qu'on peut compter sur vous pour ne rien lâcher pour Christophe Solène. Avec toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous. Si vous aussi, vous voulez les contacter, vous connaissez le chemin, vous connaissez l'adresse. RMC avec vous, @rmc.fr. 5h18.
RMC, à vous de nous dire.
Les gondoles à Venise. On va laisser les gondoles à Venise. Elles seront peut-être un peu moins fréquentées aujourd'hui, les gondoles à Venise. Faut-il faire payer l'accès aux villes touristiques? Aujourd'hui, à Venise, il faudra payer, donc, pour espérer faire un tour de gondole. 5 euros de péage pour les touristes d'un jour si vous n'avez pas réservé au moins une nuit d'hôtel.
C'est une décision qui fait polémique. L'idée, c'est de lutter contre le super tourisme, les trop grandes influences. Venise, c'est quand même 20 millions de visiteurs l'année dernière pour seulement 50 000 habitants. Alors, c'est une première mondiale, hein, mais il y a d'autres mesures un petit peu partout à l'étranger, au Japon, en Grèce ou encore à Bali.
Et ça fait débat. On veut vous entendre sur cette question. Ça tombe bien, Raph et Stéphane nous appellent ce matin au 32-16. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Raph, on va commencer par vous. Vous nous appelez de Saône-et-Loire, mais je lis que vous revenez de Venise.
Eh ben justement, j'étais encore à côté ce matin.
Ouais. Et alors comment? Bon, ça s'est bien passé. C'était pour le boulot, hein. C'était pas pour visiter.
Ouais. Par contre, c'est pour le boulot. Ouais.
Bon, comment c'était? C'était bondé, j'imagine.
C'était très pluvieux pendant 3 jours. Et puis non, mais après c'est à côté de Venise, j'ai pas la chance d'aller dedans, quoi.
Ouais, bah j'imagine, conducteur de convoi exceptionnel, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'emmener les convois exceptionnels dans Venise. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, Raph, il y a une taxe de 5 euros qui est demandée aux touristes d'un jour. C'est une bonne idée de mettre ça en place pour limiter le surtourisme.
Ça a essayé, ouais. Ça peut être judicieux du moment qu'en plus, comme vous avez expliqué, les touristes, s'ils dorment à l'hôtel, ils n'ont pas ça à payer. Là, ce serait que pour les personnes qui seraient là journalier. Moi, je trouve ça judicieux. Après, voilà, ça permettrait peut-être de réduire les frais pour les commerçants, justement. Il faudrait que ces 5 euros servent à ça pour qu'il y ait plus de commerce dans les centres-villes et que ça attire du monde.
Une meilleure propreté, vous voulez dire que, voilà, que le...
Ouais, aussi propreté, parce que moi je suis très souvent dans les pays de l'Est, quand je vois malheureusement la France à côté, ça me fait mal au cœur.
Mais alors, vous l'avez dit, c'est 5 euros pour les habitants, pour les touristes qui n'ont pas réservé une nuit d'hôtel. Est-ce que ça va vraiment limiter le tourisme de masse à Venise, d'après vous?
Non, mais ça va le réduire un tout petit peu. Mmh.
Ouais, ça permet quand même
de gagner, c'est gagné, quoi. Mmh.
Vous pensez que ça peut être un frein, parce que quelqu'un a priori qui a les moyens de partir en vacances en Italie, 5 euros, ça va pas changer grand chose, si?
Il y a peut-être les gens qui sont de passage, il y a peut-être aussi des Italiens qui sont autour, je sais pas.
Ça peut en tout cas peut-être, ce que vous dites ce matin, Raph, de gagner un petit peu de place, on va dire, dans les rues de la ville. Stéphane nous appelle du Val d'Oise. Stéphane, est-ce que vous partagez la vie de Raph?
Pas un petit peu, mais ça va pas changer grand chose. Là, il vient de dire la dernière phrase qu'il vient de dire à les Italiens d'à côté. Ça veut dire que moi, si un jour à Paris ils mettent une taxe, j'habite dans le Val d'Oise, je vais pas dormir à l'hôtel. J'ai payé 5 balles pour aller à Paris.
C'est ça.
En plus du transport. Non, là, c'est plus problématique. Je pense que c'est plus un problème économique et mondial aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai fait Venise. Je suis à moitié italien. Mmh. J'ai fait Venise il y a 40 ans. Mmh. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'Indiens, il n'y avait pas de Chinois, il n'y avait pas de Japonais. Il y avait
moins de tourisme de masse.
Oui, parce que le monde entier s'est ouvert aussi. Il y a des gens du monde entier qui peuvent venir visiter des pays. Alors, bien sûr que certains dorment à l'intérieur de Paris ou de Venise, mais bon, il faut voir les prix des hôtels aussi.
Mais on fait quoi, du coup, Stéphane? Parce que c'est vrai que quand on va à Venise aujourd'hui, en tout cas, ça perd un peu de son charme, puisque les rues sont souvent bondées, et c'est pas le seul endroit.
Qu'est-ce qu'on fait, ouais. C'est un problème que nos hommes politiques, alors ils trouvent une taxe. Les Italiens sont comme les Français, quoi. On sait pas quoi faire.
En France, à Marseille, on a un système de quotas pour les calanques.
Oui, c'est pas mal, ça.
C'est gratuit, ça reste gratuit, mais on limite l'accès.
Oui, à un moment, c'est comme le Mont Blanc ou continue l'Everest, du moins tu peux payer, tout le monde y va. Et c'est un problème. Je sais pas comment le résoudre parce que c'est vrai que les gens, j'ai visité, vous aussi, vous avez peut-être visité les pays. Donc à un moment, on se dit, on est comment, on paye pas, il y a du monde. Comment on fait? Mais c'est aux hommes politiques ou les communes de penser quand même, parce que
pour le coup, c'est ce qu'a fait Venise et qui a réfléchi à une solution.
Oui, il y a des réflexions un petit peu partout.
Raph, est-ce que mettre en place des quotas, des jauges, ce serait pas une solution peut-être plus efficace qu'un billet à 5 € pour accéder à la ville?
Ça ferait un mixte, ça éviterait que les gens, ceux qui n'ont pas trop de sous pourraient quand même y aller en s'organisant correctement, puis ça réduirait quand même le monde.
En tout cas, je retiens que Raph et Stéphane ce matin sont d'accord pour dire il faut faire quelque chose pour limiter le surtourisme et qu'on puisse mieux profiter des endroits qu'on visite. Venez nous participer au débat également, vous, ce matin. Je pense notamment aux restaurateurs et aux hôteliers, à tous les commerçants qui sont dans les zones touristiques. Comment vous réagissez quand vous entendez cette taxe qui est mise en place à Venise, cette taxe de 5 € sur les touristes? Est-ce que on s'inquiète que ce soit mis en place, que ce soit développé en France? Quel est votre état d'esprit quand vous entendez ça? Venez nous le dire au 32-16 sur RMC, le débat se poursuit. Merci beaucoup Raph, merci beaucoup Stéphane d'avoir participé au débat ce matin au 32-16. Bonne journée à vous du côté de la Saône-et-Loire et du Val d'Oise. On continue le débat, je vous lisais toute la matinée sur RMC, vous nous appelez au 32-16 et vous laissez vos messages sur l'application Direct Studio.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, sur RMC, le journal de 5h30. Et puis, juste après, vous le savez, ce sera toute la bande de Charles Matin qui sera en studio, la Story Sport d'Alex Biggerstaff. Alex, il va nous parler de Richard Gasquet, qui va battre un record du tennis français. Il va jouer son 1000e match en pro, Richard Gasquet. C'est assez impressionnant, des chiffres qui sont marquants. En tout cas, on retrouvera aussi les bons conseils tech d'Anthony Morel pour éviter de vous faire voler une voiture. Et puis, Géraldine, toi aussi, tu as des solutions conso.
On part à la ferme tout de suite cueillir des fruits et des légumes.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h25.
RMC,
la solution conso.
La solution conso comme tous les matins, les solutions de Géraldine Demory pour faire baisser les factures. On s'en rend pas vraiment compte, c'est vrai qu'on est passé un peu à côté en ce moment, mais c'est le printemps, Géraldine. Et de nombreuses fermes ont déjà rouvert leurs portes pour la cueillette.
Et oui, tu sais, la cueillette, c'est la possibilité d'aller directement chez le producteur et de cueillir soi-même ses fruits, légumes ou même ses fleurs. L'avantage, forcément, c'est des produits qui sont très frais et à un prix imbattable. En moyenne, c'est 30% moins cher que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Alors, en ce moment, ce sont les fraises, évidemment, qui cartonnent. Vous pouvez les trouver à moins de 6 € le kilo. Et puis, en plus, c'est une activité qui est super sympa à faire avec les enfants.
C'est tentant, mais encore faut-il avoir une ferme à côté chez soi. Moi, je suis pas sûr d'en avoir à côté de chez moi.
Eh ben, tu le sais pas forcément, mais parce que c'est vrai que toutes les fermes ne communiquent pas sur un site internet, mais il y a plein d'applis pour connecter le producteur et le consommateur. Et on se rend compte que, il y en a beaucoup, en fait, et même près de chez soi. Alors, la dernière appli en date, elle s'appelle Cueillette, tout simplement. Et donc, avec cette appli, tu vois les producteurs qui sont près de chez toi, les horaires d'ouverture. Tu peux même faire tes courses directement via l'appli. Ensuite, tu as plus qu'à récupérer ton panier sur place. C'est comme pour un drive. D'ailleurs, ce système de drive fermier se développe de plus en plus. Souvent, il y a plusieurs producteurs qui vont se regrouper pour proposer un maximum de produits. Tu es sûr de payer le prix juste, puisque tu payes directement le producteur, hein, t'enlèves tous les intermédiaires, pas de centrale d'achat, et puis très peu de frais de transport.
L'appli Cueillette, voilà, à retenir le bon plan de Géraldine ce matin. J'ai vu aussi, Géraldine, qu'il y avait des distributeurs automatiques avec des produits locaux.
Eh bien oui, ça aussi, ça se développe de plus en plus. Pain, légumes, rillettes, ou même des huîtres. On trouve vraiment de tout, et alors, surtout en milieu rural, quand on sait que 6 communes rurales sur 10 n'ont plus de commerce de proximité, ça reste une alternative. Alors je vous rassure, les casiers évidemment sont réfrigérés, ils sont connectés pour que le producteur puisse facilement gérer son stock. Plusieurs artisans là aussi peuvent se regrouper sur un même distributeur, ce sont eux qui fixent les prix, sensiblement les mêmes qu'en direct de la ferme. L'avantage, des produits accessibles 24h/24, 7 jours sur 7, ça permet de toucher un public plus large, donc vraiment plus aucune excuse pour ne pas acheter de produits locaux à un bon prix.
Et en plus ça permet de mieux manger, donc comme ça tout le monde est gagnant. Merci beaucoup Géraldine, on retrouve évidemment toutes tes chroniques en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, on se fait plaisir à 5h28 sur RMC avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Et on va prendre des nouvelles de Kenji. Kenji Girac qui a été opéré, il sera vite remis sur pied. D'ailleurs, vous pourrez même le retrouver en concert dès cet été à Bâle, où il dévoilera son album de reprise, comme celle de Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver, Clara Luciani, Sous mon sein la grenade, NTM, Pose ton gun, et bien entendu le grand classique d'Edith Piaf, Pas d'armes, pas d'armes, pas d'armes. Oui, il déclarera ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Donc bon rétablissement, Kenji. Non mais j'en avais plein, des blagues à deux balles sur Kenji, mais bon, comme il en a pris une, je peux plus.
Ah oui.
Alors sinon, dans l'actu.
Il y a toujours
un. Il y a deux secondes. Il y a
l'amour du jeu de mots bien fait, le travail français.
Arnaud Demanche, qu'on retrouvera évidemment comme tous les jours en direct à 7h20 et 8h20 autour d'Apolline de Malherbe dans Apolline. Matin, 5h29 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Vous êtes sur RMC et vous avez fait le bon choix. Il est 5h30. Thomas Schnell est là pour vous donner toutes les infos. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Jusqu'à 3200 postes supprimés, Casino va enclencher les discussions du plus grand plan social depuis le début de l'année en France. Faut-il rendre payant l'accès aux sites menacés par le surtourisme ? Venise expérimente à partir d'aujourd'hui un ticket pour les visiteurs journaliers. Et puis si j'arrive à Paris comme je me sens aujourd'hui, je ne jouerai pas. Raphaël Nadal ne rassure pas sur sa participation à Roland-Garros.
C'est un nouveau coup de rabot qui s'annonce au sein du groupe Casino.
Le distributeur repris fin mars par un consortium dirigé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est écrasé sous les dettes. Alors face aux errances de la gestion, la réorganisation s'annonce difficile pour les salariés. 1293 à 3267 postes seront supprimés au sein d'un groupe dont les effectifs ont déjà été divisés par deux en deux ans. Le siège historique du groupe à Saint-Étienne perdra 550 salariés sur place. La nouvelle est dure à encaisser. Reportage RMC de Vincent Chevalier.
Au minimum, 1300 postes seront supprimés dans les différents sièges du groupe. Situation difficile à gérer pour les salariés.
Ça peut être compliqué. Hein. Derrière, il y a des enfants. Voilà, on attend les informations avec impatience parce qu'on trouve ça long.
Effectivement, pour l'instant, les travailleurs ne savent pas qui reste et qui part. Ses deux collègues ont donc anticipé et déjà refait leur CV.
Moi, le mien est remis à jour, mais voilà, c'est ça.
Il est remis à jour régulièrement. On n'a pas attendu la situation pour mettre à jour. C'est
ça. La promesse du groupe est de se réorganiser pour survivre. Alors, certains veulent y croire, comme Hervé, salarié d'Isidis, la filiale logistique de Casino.
J'y suis très attaché, je suis stéphanois et je suis né à quelques mètres du siège.
La direction dit avoir tout fait pour préserver ce siège. Pilule difficile à avaler pour Hervé, délégué syndical CFE-CGC.
Quand il y a des suppressions de postes, quelle qu'elle soit, qu'il y en ait 1000 ou qu'il y en ait 3000, c'est toujours trop.
Il faut surtout espérer une solution pour les magasins et plateformes logistiques qui n'ont pas encore trouvé preneur.
Si d'ici le mois de septembre, ces magasins ou ces plateformes n'ont pas trouvé l'ensemble des salariés qui composent ces entités-là, feront aussi partie du PSE.
Dans ce scénario du pire, plus de 3200 personnes perdraient leur emploi.
À Orléans, le tribunal de commerce a placé Duralex en redressement judiciaire. La mythique verrerie française est en difficulté. Les 230 salariés de l'usine sont suspendus à d'éventuels repreneurs.
Un procès hors norme s'ouvre aujourd'hui à Valenciennes.
11 hommes de 26 à 61 ans comparaissent pour avoir eu des relations sexuelles parfois tarifées avec une collégienne de 14 ans. Des étudiants, des chômeurs, des agriculteurs, des pères de famille, des hommes mariés, ils encourent des peines de 7 à 10 ans de prison. Tous sont entrés en contact avec l'adolescente sur un site de rencontre, Coco, et parfois considéré comme une plateforme pour la prostitution, Marion Dubreuil.
Les parents avaient signalé la fugue de leur fille. La collégienne avait été retrouvée chez un agriculteur de 54 ans qui sera aujourd'hui sur les bancs des prévenus. Les gendarmes ont découvert que l'adolescente échangeait avec des majeurs via le site internet de rencontre Coco. Son avocat, maître Grégory Frère.
Il y a des jeunes apprentis, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des responsables avec des postes à responsabilité qui vont solliciter des prestations tarifées parfois et parfois non tarifées avec cette demoiselle. On a fait établir les photos qui sont contemporaines au moment des faits. Il n'y a pas de discussion à avoir sur l'âge de la demoiselle. Elle n'avait pas un physique qui pouvait prêter à confusion.
L'un des prévenus, âgé de 45 ans, poursuivi pour avoir obtenu des vidéos à caractère pornographique de la victime, ne savait pas qu'il échangeait avec une enfant de 14 ans, assure son avocate Sarah Bensaber.
Ne serait-ce que de par l'inscription sur un site de rencontre qui n'est autorisé qu'aux personnes majeures. Les échanges qu'il a avec cette jeune fille ne le laissent pas imaginer un seul instant qu'elle aurait moins de 18 ans.
Un militaire a déjà été condamné à 2 ans de prison pour recours à la prostitution d'un mineur.
Cette plateforme, coco.gg, a aussi été citée dans l'affaire Philippe à Grande-Synthe. Le troisième agresseur présumé de Philippe Kopmann a d'ailleurs été mis en examen hier pour meurtre avec guet-apens. Ce garçon de 15 ans a été placé en détention avec deux autres jeunes suspects, dont son cousin. Les obsèques de Philippe hier ont rassemblé environ 500 participants. Trois vols sur quatre supprimés au départ ou à l'arrivée d'Orly, 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle et 45% dans les autres aéroports. Le trafic aérien reste fortement perturbé malgré la levée du préavis de grève. Le principal syndicat des contrôleurs a conclu un accord avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais trop tard pour que les vols annulés puissent être reprogrammés.
À Venise, la lutte contre le surtourisme passe par un billet d'entrée pour les visiteurs d'un jour.
Ce jeudi, pour rentrer dans la Sérénissime, les visiteurs à la journée devront payer 5 euros. Pour rentrer dans la ville, c'est une première mondiale, ce qui n'est pas pour déplaire à William. Cet étudiant originaire de Poitiers n'en est pas à sa première visite de Venise, mais il regrette toujours la forte affluence.
Selon les ponts où on passe, on a un peu du mal à circuler, donc des fois il y aura un peu moins de monde, ça serait un peu plus agréable. 5 euros dans un séjour, c'est pas ce qui dissuade, surtout quand on voit la ville. Il faut payer soit le parking pour la voiture, soit le bateau, donc il y a déjà des taxes implicites. Et après, limite, ça pourrait permettre d'entretenir un peu plus la ville et de rapporter un peu plus d'argent à la ville, parce que justement, il n'y a pas de locaux. On sent qu'il n'y a pas de vie, en fait, sortie du tourisme, il n'y a pas de lumière habitée le soir, c'est très mort comme ville, et en fait, on a l'impression qu'il n'y a que des touristes. Qu'il n'y a plus aucun loco même, on n'a pas une petite supérette de quartier comme on peut avoir partout, par exemple, dans toutes les grandes villes. C'est un peu dommage d'un sens.
Est-ce que vous partagez cet avis, une taxe payée par les touristes pour limiter la fréquentation de certaines villes comme Venise? Est-ce que c'est une bonne idée? Venez nous le dire ce matin sur RMC au 32-16, on vous attend, notamment si vous êtes commerçant, je pense aux restaurateurs, aux hôteliers dans les zones touristiques. Comment vous réagissez à cette taxe imposée aux touristes à Venise? Est-ce que vous avez peur que ça voit le jour également en France? Est-ce que ce serait une bonne idée? Tous vos avis, tous vos témoignage au 32-16 et sur Direct Studio ce matin.
Raphaël Nadal entretient le doute sur sa participation à Roland-Garros. Le flou demeure avant le Masters 1000 de Madrid où il poursuit son retour à un mois de l'échéance sur la terre battue parisienne. L'Espagnol a donné de ses nouvelles qui n'incitent pas spécialement à l'optimisme. On l'écoute.
Ce qui va se passer dans les trois prochaines semaines, c'est que je vais me battre et faire des choses. Je pense que je dois le faire pour essayer de jouer à Paris, et si je ne peux pas, je ne peux pas. Si je suis comme aujourd'hui à Paris, je ne sortirai pas pour jouer. Je veux me donner une chance ces prochaines semaines, mais le monde ne s'arrête pas à Roland-Garros. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est la réalité.
Le début du French Open, c'est prévu pour le 26 mai. Et puis un coureur, on reste dans le sport, a fait sensation pendant le marathon de Londres. Il a dégusté tout en courant les 42 kilomètres. Pas moins de 26 verres de vin.
Ah oui, quand même.
C'est pas mal, 26 verres de vin. Même en temps normal, ça reste quand même conséquent pour une simple soirée. Sauf que là...
Ouais, c'est un peu beaucoup même.
Beaucoup en 4 heures. Donc, 26 verres de vin, 4 heures pour faire en même temps les 42 kilomètres. Tom Gilby.
Ah, je croyais que c'était Alex Biggerstaff. Non,
il a
pas
réalisé,
du tout.
Ça dénonce.
c'est ton score, c'est ça, au marathon.
Faut que je cache mes stats.
Donc, Tom Gilby a réalisé cette prouesse et c'est pour la bonne cause, puisqu'il va récupérer une belle somme d'argent pour une association caritative, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas seulement de boire tranquillement et de se siffler du vin en courant. Non, non, il devait deviner le cépage, le lieu d'origine et l'année. Et s'il trouvait, il remportait une récompense, donc reversée à des associations caritatives. Il a pu étaler ses connaissances lors de cette course. 14 fois, il a eu partiellement raison. 7 fois, il a trouvé. 4 fois seulement, il s'est complètement trempé. Bel exploit, surtout qu'il n'avait pas participé à un marathon depuis près de 30 ans.
En 30 ans. Bel exploit, mais avec modération quand même. Ça fait pas courir plus vite en vrai.
Non, c'est vrai. Puis ça peut rajouter des kilomètres au bout. Aussi, ouais. si on zigzag.
4 heures pour le marathon, c'est quand même pas mal. Hein.
4 heures pour le marathon.
J'ai jamais fait personnellement.
Personnellement, j'arrive pas au bout déjà.
Tout court, je suis content de les faire. Alex Biggerstaff, un marathon, t'as déjà fait?
Oui.
Et alors? 4 heures pour un marathon?
C'est très bien, mais moi c'est moyennasse quand je le fais.
Ouais, déguste pas du vin en même temps. Évidemment, on rappelle, hein, consommer avec modération quand même, particulièrement quand on fait du marathon. Merci beaucoup, Thomas. Les courses aujourd'hui, effectivement, tu viens de me le rappeler, c'est à Paris-Longchamp.
Oui, à 20h15 en nocturne, le pronostic de la Dream Team RMC, le favori numéro 6, Giraffe, l'outsider numéro 10, Dipsy, le 6 et le 10. Les courses, c'est à vivre en direct sur RMC Découverte.
5h38, merci beaucoup Thomas, on te retrouve demain pour les premiers journaux de la journée de vendredi. demain. D'ici là, on va continuer le débat ce matin sur RMC, débat autour de cette taxe imposée, cette taxe de 5 euros imposée à Venise. Alex Biggerstaff, je sais pas, tiens d'ailleurs, si t'as déjà visité Venise ou pas.
Je n'ai pas eu cette chance.
Et en tout cas, aujourd'hui, les visiteurs qui ne dorment pas à Venise, mais qui veulent entrer dans la ville, doivent payer 5 euros. Ça fait débat ce matin sur Direct Studio.
Pour Ludo, 5 euros, ça ne va décourager personne. Mais en revanche, c'est un dangereux précédent. Puis vous êtes nombreux aussi à avoir des solutions pour lutter contre le surtourisme. Pour Steve, il nous dit qu'il faudrait instaurer un système de quotas journaliers. Tu réserves ta journée sans être obligé de payer. Mais si tu n'as pas réservé, tu ne rentres pas. Pour Seb, il faut prendre le problème à la source. Mettre une taxe mondiale sur les billets d'avion. Quand les billets d'avion seront à 2000 euros minimum pour n'importe quel vol, les gens n'auront plus, ne partiront plus au bout du monde. Ils iront à la plage à côté de chez eux, comme il y a 50 ans.
C'est une façon de voir les choses. Venez nous dire aussi vos solutions. Comment on peut lutter contre le tourisme de base? J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, en tout cas pour limiter l'affluence de touristes dans certaines villes, dans certains endroits. Venez nous dire comment on peut s'y prendre. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre une taxe, de faire payer les touristes pour entrer dans certains endroits, dans certaines villes? Si vous êtes restaurateur, si vous êtes hôtelier, si vous êtes commerçant dans ces endroits touristiques, appelez-nous également au 3216. Venez nous dire si ça vous inquiète un peu cette tendance qu'on est en train de prendre, ou si au contraire c'est une bonne idée, parce que au bout d'un moment ça risque de faire fuir, et peut-être que les gens seront plus tranquilles et plus amenés à dépenser s'ils sont dans un environnement serein. On attend vos appels, on attend tous vos témoignages ce matin au 3216 et sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio, 5h40.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Comme tous les matins, on vérifie si vous êtes bien réveillé en vous posant une question d'actu à laquelle il faut répondre pour gagner.
A priori, si vous étiez en train de nous écouter il y a à peu près 30 secondes, vous devriez avoir la réponse. Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes?
On l'a dit, et comme le disait Géraldine, il y a 40 secondes, puisque tu as dit ça il y a 10 secondes. Donc c'est bon. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Muse pour écouter RMC dès le réveil.
Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes? Vous avez la réponse, vous prenez votre téléphone et vous envoyez le mot ACTU, A-C-T-U, par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les indiscrets RMC, comme tous les matins, les coulisses de l'actualité. Ce matin, c'est avec Cyprien Pézeril du service politique de RMC. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Cyprien, vous nous révélez ce matin une info RMC. Le Parti Socialiste vient de mettre en location son siège en banlieue pour retourner à Paris.
Oui, je suis tombé sur une petite annonce sur un site d'immobilier. Je vous la lis. Au sein d'une ancienne manufacture, 1400 m² de surface pour 200 000 euros par an, une vingtaine de bureaux, une grande salle de réunion. Et en réalité, cette offre de location n'est pas une offre comme les autres. C'est celle du Parti Socialiste. Sur les photos, on y voit notamment le bureau du patron Olivier Faure. Il avait déménagé le parti à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, en 2018, après le départ du siège historique de Solferino. Sauf que la greffe, elle n'a pas pris, c'est trop loin, et puis impossible de manger un morceau autour après les réunions. Le seul troquet à côté, je ne l'ai jamais vu ouvert, râle un élu qui, comme d'autres, n'y a pas beaucoup mis les pieds. Les socialistes donc bien décidés à revenir dans la capitale. Selon nos informations, la piste privilégiée est de louer à côté de la place de la République, lieu symbolique des mobilisations sociales. La direction ne le confirme pas, mais l'idée c'est de récupérer l'actuel local de campagne de Raphaël Glucksmann, leur candidat aux européennes. Plusieurs lignes de métro pour y accéder, des cafés et des restaurants autour. Bref, le cahier des charges serait rempli. Et puis, retourner à Paris, c'est une manière de dire que le PS revient dans le jeu, fanfaronne une élue, alors que son parti est dans le trio de tête dans les sondages des élections européennes.
Indiscret politico-immobilier, signé Cyprien Pézeril, ce matin du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Ils sont là, ils sont tout beaux, toute la bande de Charles Matin est déjà là en studio. Alex Biggerstaff, vous l'avez déjà entendu pour la Story Sport.
Rebonjour tout le monde, on va à Madrid ce matin, un Français va passer une barre hautement symbolique, et c'est pas du saut à la perche mais du tennis.
Anthony Morel est également là, salut Anthony.
Salut tout le monde, des innovations pour mieux lutter contre les vols de voitures et les retrouver quand elles ont été volées, ça peut être pratique aussi.
Tu nous dis tout ça dans un instant, effectivement ça peut aider, et puis comme chaque jour on aura ton bonus Géraldine.
Si je vous dis dessin animé avec des personnages jaunes.
Tout.
Oh, vous voyez forcément de quoi je parle.
Les mignons.
Les Simpsons. Les Simpsons, c'est riculte.
Les Simpsons évidemment.
On en parle dans un instant, on en parlera tiens avec Laurent qui nous appelle au 3216 et qui va réagir et qui va témoigner ce matin sur RMC. À tout de suite.
RMC, Charles Matin.
6h moins le quart sur RMC, la bande de Charles Matin est là en studio. Alex Biggerstaff qui va nous parler d'un record battu par un tennisman français aujourd'hui. Anthony Morel qui va nous aider à ne pas nous faire voler notre voiture, ça peut être utile. Et puis Géraldine également qui va nous parler de culture et de dessins animés avec des petits bonhommes jaunes. Et ce ne sont pas les mignons. Donc. on est d'abord en ligne avec Laurent qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Laurent.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. Salut Laurent. Salut Laurent. Ça va Laurent ce matin?
Très bien, merci. Ça très bien.
C'était quoi votre dernier voyage Laurent?
À Rome justement. On est parti une semaine à Rome. Exactement. On est rentré de Rome vendredi. On est parti à 5 personnes, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et ma sœur. Mm-hmm. On a passé 5 jours à Rome. Et quand je vous écoutais par rapport à Venise, en sachant qu'à Rome on a une taxe de séjour 5€ par jour, malgré qu'on en plus on y couchait, on a passé donc ça nous a coûté quand même pas mal. 20€ par jour pour moi et puis par 5€ pour ma sœur. Mmh. Alors que toute la semaine, on laisse notre argent au restaurateur, tous les sites touristiques sont payants et ainsi de suite. Mais pourtant, je pense que ça va se banaliser parce que...
Va se banaliser, c'est cette taxe, on va le repréciser, mais Venise qui met en place dès aujourd'hui une taxe de 5€ pour les touristes d'un jour, ceux qui ne dorment pas dans la ville. C'est trop pour vous?
Moi, je trouve que c'est déjà pas mal parce que, alors, les gens qui dorment pas et les gens qui dorment, est-ce qu'il y a une taxe de séjour également? Je crois que ça va revenir au même, en fin de compte. Ça va revenir au même et puis ça va leur apporter. Parce que je ne pense pas que ça va freiner le tourisme. Je suis pas convaincu.
Vous avez trouvé qu'il y avait du monde? Vous avez pu en profiter?
Il y avait énormément de monde. Énormément de monde. Alors, je sais pas si on est passé par la mauvaise période, mais en même temps, on s'est basé sur les vacances scolaires. Et c'était énorme, énorme. On a visité le Vatican, tout ça, c'était énorme.
Ça gâche un peu le plaisir?
Ça gâche le plaisir, oui, parce que on est comme un troupeau, on suit, et ça fait pas pareil.
Mais donc effectivement... ça pourrait être une bonne idée, cette taxe de 5€?
Je suis pas convaincu. Bonne idée ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va leur apporter encore plus. Mmh. Après, est-ce que ça va freiner le tourisme? Peut-être pour certains, mais je suis pas convaincu. Quand on a l'idée d'aller visiter quelque chose, je ne sais pas si ça freine.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour limiter le surtourisme? Alex Biggerstaff, on en parlait hors studio. Tu me disais tout à l'heure, je suis jamais allé à Venise. J'aimerais bien y aller, mais pas dans ces conditions-là.
Oui, c'est ça. En fait, découvrir des endroits, mais il y a certains, pas tous les endroits dans le monde, mais certains endroits très connus où on n'a pas envie d'être en fait au milieu d'une foule immense partout où tu vas.
Ça gâche un peu le.
Ça rend pas les vacances
Laurent,
de la même manière.
Mettre des quotas en place comme on a fait par exemple dans le Sud-Est, dans les Calanques.
Presque, il faudrait faire ça, effectivement, parce que il faudrait gérer comme dans un stade. Vous avez 80 000 places, et il y en a 80 000 qui rentrent, il n'y en a pas plus. Et puis, un système. Alors, le Vatican, je prends l'exemple du Vatican parce que j'y étais. Vous avez des rentrées de personnes toutes les demi-heures. Mais arrive un moment, les gens qui sont à l'intérieur ne sortent plus. Puis ça devient épouvantable. Mais après, effectivement, je peux comprendre pour la ville, mais, arrive un moment, il faudrait peut-être mettre des quotas et puis,
vous aussi, appelez-nous au 32-16 pour nous proposer vos solutions face au tourisme de masse. Est-ce qu'une taxe à 5€ est une bonne idée? Est-ce que vous serez prêt à la payer, cette taxe? Venez nous appeler au 32-16. Vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Laurent, on va parler de tennis. Ça vous intéresse, le tennis? Vous aimez bien ça?
Ouais. Un petit peu, oui, je regarde surtout quand c'est les Français, c'est Roland Garros, quand c'est voilà.
Et figurez-vous qu'un Français va réaliser une performance très rare, Alex Biggerstaff, puisque un Français donc va se prépare aujourd'hui à disputer son 1000e match en carrière.
Et merci d'avoir tenu secret le nom, Martin. Tout a commencé le 15 avril 2002 pour lui.
Il est Français, Richard Casquier. Et il s'est imposé pour ce match à celui qui est passé aujourd'hui 50e à la course des champions 2002, l'Argentin Franco Scolari.
Eh oui, Richard Gasquet, c'était sur le central de Monte Carlo face à l'Argentin Franco Squillari en 2002 déjà, dégoûté d'avoir perdu d'ailleurs face à un môme de 15 ans et 10 mois en polo rouge. Cet après-midi, il sera opposé au premier tour du Masters 1000 de Madrid à un Italien, Lorenzo Sonego. Entre-temps, 22 années ont défilé avec 998 matchs supplémentaires.
Tiens, donne-nous un petit coup de vieux là, c'était qui les joueurs phares du circuit en 2002?
Alors, il y avait l'Australien Leighton Hewitt qui était numéro 1
mondial, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero ou encore André Agassi, plus proche de la fin de carrière. Là où Gasquet n'a pas eu de bol, c'est qu'à cette époque, un petit Suisse de 20 ans commençait à percer et un ado espagnol au biceps de catcheur disputait lui aussi son premier match pro. Je vous laisserai deviner au niveau des prénoms. Tout jeune, malheureusement, Gasquet était annoncé aussi comme un futur très grand, sans doute une grosse pression sur ses épaules. Il avait un style de jeu très élégant. Malheureusement, de nombreuses blessures ont orienté la trajectoire de sa carrière, même s'il s'en sort pas trop mal au final. 16 titres en simple sur 33 finales disputées et 2 demi-finales de Grand Chelem. Troisième Français le plus titré en simple derrière Yannick Noah et Jo Wilfried Tsonga.
Et il dispute donc son 1000e match en carrière aujourd'hui. C'est rare, très rare dans le tennis.
Ben pour preuve, ils ne sont que 8 avant lui à avoir franchi ce cap symbolique. Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore John McEnroe. C'est sympa ça comme va, cercle. Va, ouais. Pour ne citer que sa meilleure année, il l'a connue en 2013 avec 50 succès et aussi le buzz du hashtag Richard 2013 sur Twitter quand c'était encore un endroit sympa. Tout à l'heure, face à Lorenzo Sonego, il va viser une 105e victoire à bientôt 38 ans. 605e victoire à bientôt 38 ans. Même s'il déteste le surnom de petit Mozart du tennis, Richard a réussi à nous donner de l'espoir pendant 22 ans et Dieu sait que l'espoir fait vivre. Ça explique sans doute cette longévité remarquable.
20 ans déjà de carrière pour plus de 20 ans, même 22 ans de carrière pour Richard Gasquet. Ça nous rajeunit pas tout ça.
Ouais. Je crois que c'était un des joueurs préférés en fait du public français. C'est peut-être le cas de Laurent, je sais pas.
Ouais, bah écoutez, on va voir Laurent, il a un petit problème avec son téléphone, il nous a
c'est l'émotion.
Exactement. Ouais, on va essayer de le rappeler Laurent pour le faire réagir. Tiens, peut-être au propos d'Anthony Morel. Anthony, tu nous parles de vol de voiture aujourd'hui. Un vol de voiture a lieu toutes les 4 minutes en France. 140 000 véhicules volés l'an dernier, c'est plus 5% sur un an. Est-ce que la tech et l'innovation peuvent nous aider?
Oui, nous aider. Alors, il n'y a pas de solution magique, évidemment, mais il y a quand même des innovations qui vont permettre, alors, à la fois de prévenir les vols, on va y revenir dans une seconde, mais aussi de retrouver les voitures volées de manière quasi systématique, ce qui est quand même pas mal non plus. L'une des solutions, c'est d'utiliser tout bêtement un tracker GPS, comme pour les smartphones qui permettent de géolocaliser la voiture. Mais un tracker GPS, écoutez bien, qu'on va cacher dans la voiture à un endroit que même vous ne connaissez pas. Ça, c'est un service qui est proposé notamment par Coyote. On les connaît pour les détecteurs de radar, vous savez, tout ça. Et ben là, ils ont lancé un service qui permet en fait de cacher des petits boîtiers de la taille d'une boîte d'allumettes dans la voiture, avec à l'intérieur des capteurs GPS, GSM et autres. Donc on les met, c'est un installateur qui fait ça, on vous dit même pas où, donc à l'intérieur des sièges, ils sont cachés un peu partout, vous n'êtes pas censé les chercher de toute façon. Et en cas de vol de voiture, ben vous appelez et un service spécial de chasseurs va aller chercher votre voiture. C'est des anciens des forces de l'ordre qui vont la géolocaliser grâce à ces boîtiers. Quand ils s'approchent, ils ont une application chaud-froid qui leur indique s'ils s'approchent ou s'ils s'éloignent. Même au fin fond d'un parking souterrain, on va pouvoir la retrouver au mètre près. Et là, évidemment, ils n'interviennent pas tout seuls, ils appellent les forces de l'ordre. Ils se vantent de retrouver comme ça plus de 90% des véhicules volés en 48 heures chrono.
C'est
énorme. D'habitude, en gros, quand tu te fais voler ta voiture, tu as 6 chances sur 10 de ne plus jamais la revoir. Et d'ailleurs, ils ont passé des partenariats avec des assureurs, parce qu'évidemment, c'est plus rentable pour les assureurs que vous vous équipiez de ce genre de dispositif. Exactement. Alors, ça coûte quand même 250 euros à l'installation, et après, c'est des abonnements autour de 10 euros par mois. Donc, c'est un investissement.
C'est l'abonnement après qui est.
C'est après l'abonnement qui fait un peu mal.
C'est ça. Après, ça évite de devoir racheter une voiture dans les jours qui suivent. Ça peut quand même aider. L'idéal, Anthony, serait quand même d'éviter carrément le vol.
Alors là aussi, on a des innovations assez intéressantes qui sont en train d'arriver, et notamment la reconnaissance faciale du conducteur. C'est-à-dire que la voiture, elle est capable de reconnaître son propriétaire, et si c'est pas lui, elle démarre pas. Elle s'ouvre pas et elle démarre pas. Comme pour les smartphones, là encore, les voitures, c'est des smartphones sur roues, donc on va intégrer, mais c'est vraiment ça, en fait. En réalité, on va intégrer des caméras. Alors, il y en a une qui va se placer dans le montant central, donc entre la portière avant et la portière arrière, une autre au niveau du tableau de bord. Vous vous approchez de la voiture, il n'y a plus besoin de sortir les clés, elle va s'ouvrir toute seule parce que c'est vous. Et une fois au volant, même chose pour démarrer, vous montrez votre visage à une deuxième caméra. Alors c'est paramétrable, évidemment, on peut aussi donner l'accès à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, un ami. Mais normalement, même si on montre une photo de vous par exemple devant la caméra, ça ne fait pas démarrer la voiture. Et là aussi, c'est une technologie qui est quand même assez intéressante, puisque là, si vous avez une tentative de vol, la voiture elle ne voudra pas partir, tout simplement.
Sauf si t'es en retard le matin, que t'as pas eu le temps de te coiffer à la tente.
Mais si c'est moi, je te dis.
Laurent, qu'on a retrouvé au 32-16, c'est rassurant tout ça, là, quand la tech veut nous aider à éviter les vols de voitures.
C'est rassurant si ça fonctionne, parce que j'ai toujours l'impression que les voleurs, ils ont un temps d'avance quand même.
Ça, c'est vrai, c'est un jeu de chaîne, la souris.
Ça,
c'est
si ce que la si tech est aussi les voleurs. Oui, mais ça fonctionnera et puis ils arriveront bien à détourner tout ça. De toute manière, tant mieux pour tout le monde, mais je pense qu'ils auront un temps d'avance aussi. Donc,
La tech les aide aussi, mais c'est vrai que si on peut trouver des solutions pour éviter ces vols de voitures, ça peut aider un 140 000 véhicules volés l'été dernier. Géraldine, ton bonus. Aujourd'hui, tu nous parles de la série culte Les Simpsons qui est en deuil.
Bah ouais, je vais vous spoiler un petit peu. Un des personnages des Simpsons est mort.
Non.
Oh non, non.
Lequel?
Ouh, mais attends, voir. Il y a quelque chose qui me tracasse dans cette boîte.
Non, c'est pas Homer, je te rassure. Ah,
il y a plus de
non,
série après.
C'est un de ses compagnons de beuverie, Larry, qui est décédé dans l'un des derniers épisodes diffusés. Vous voyez qui c'est, Larry?
Ouais, il n'avait pas une hygiène de vie extraordinaire.
Exactement.
Je m'étonne qu'il ait vécu aussi longtemps.
Ça pouvait lui arriver, ouais.
Figure-toi qu'il est présent depuis le début de la série, et pourtant il a parlé seulement dans deux épisodes, en 35 saisons. Larry, effectivement, on le voit dans pratiquement toutes les scènes qui ont lieu à la taverne de Moe, le bar préféré d'Homer. Et comme souvent dans les Simpsons, sa mort va permettre de soulever des questions de société. Puisque Larry décrit Homer et ses compagnons comme ses meilleurs amis, et eux, ils se rendent compte qu'ils connaissent rien de lui, donc ils vont essayer de se rattraper en allant disperser ses cendres à un endroit qui lui était cher. La suite, je vais vous la laisser découvrir quand même, hein. C'est dans l'épisode 15 de la 35e saison donc des Simpsons.
Oh, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire?
Ouais.
Oh, c'est pas mal, on va réussir à faire un truc tous les deux.
Bon,
ouais, les Simpsons, ça reste cool. 35 saisons quand même.
Impressionnant.
Impressionnant.
Moi, je suis fan, j'adore.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci également à Laurent qui nous a appelé au 32-16 pour participer à ce tour de table. 5h56 sur RMC. On se retrouve dans un instant également sur RMC Story à la télé pour la météo et le journal.
Bon réveil sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Et Quentin Vinet est là pour vous donner toutes les infos. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Il projetait un attentat pendant les JO à seulement 16 ans. Un adolescent interpellé hier chez lui en Haute-Savoie, repéré après avoir écrit sur une messagerie cryptée. On va vous expliquer. Le début d'un jeudi noir dans les aéroports, malgré l'accord trouvé entre l'aviation civile et les contrôleurs aériens, des milliers de vols sont supprimés. Et puis le foot, Paris, pas encore champion de Ligue 1, malgré sa victoire 4-1 hier à Lorient, parce que Monaco a gagné hier soir aussi.
Et puis des touristes d'un jour devront payer un billet à 5 € pour voir Venise, une première mondiale qui commence aujourd'hui, juste après le journal. On est avec un spécialiste du tourisme qui nous dira si c'est efficace ou non, ce genre de solution. C'est un jeune de seulement 16 ans qui voulait commettre un attentat pendant les JO.
Il voulait mourir en martyr et s'en prendre donc à l'événement de l'année. À 16 ans, c'est difficile à imaginer. Il y a de quoi avoir des sueurs froides. Voilà ce que dit RMC, un spécialiste du renseignement. Et c'est parce qu'il a publié des messages qu'il a été interpellé, Marion Dubreuil.
Ce sont des échanges sur la messagerie cryptée Telegram qui ont alerté les autorités. L'adolescent cherchait à se procurer de quoi fabriquer une ceinture explosive pour, je cite, « mourir en martyr ». Il a été interpellé chez ses parents en Haute-Savoie dès hier. En perquisition, les policiers ont retrouvé de nombreux documents, dont une lettre manuscrite d'allégeance à l'État islamique. Mais les enquêteurs n'ont retrouvé aucune arme ni explosif au domicile du suspect. En garde à vue, le mineur a reconnu avoir eu pour projet de commettre un attentat suicide à la Défense pendant les Jeux Olympiques avec un fusil ou une ceinture explosive. L'enquête se poursuit désormais sous la direction du parquet national antiterroriste pour déterminer la réalité du projet d'acte terroriste et le cas échéant son état d'aboutissement.
Il y a désormais 5 adolescents poursuivis à Montpellier. 2 nouvelles mises en examen hier dans l'affaire Samara. Cette adolescente de 13 ans qui avait été rouée de coups au début du mois à la sortie de son collège. Toujours la même version dans l'affaire Kenji Girac, le chanteur blessé par balle en début de semaine. Il a maintenu sa version du tir accidentel pendant son audition qui a duré 3 heures hier à l'hôpital de Bordeaux.
6h02 sur RMC, c'est un jeudi noir qui commence dans les airs.
Oui, un accord a pourtant été trouvé entre la direction de l'aviation civile et le syndicat majoritaire qui a appelé à la grève, portant notamment sur les salaires. Le préavis du principal syndicat a donc été levé, mais trop tard. Des milliers de vols sont quand même annulés, plus de 2000 en Europe, les 3/4 à Orly, les 2/3 à Marseille, la moitié à Roissy et ailleurs, comme Emma par exemple qui cherche à rentrer de Malte.
On a dû réserver un vol, réserver une nuit d'hôtel. Donc, ça fait un sacré budget en plus. Personne, on doit être à 150 euros, je pense. Et je devais travailler vendredi, je ne pourrais pas travailler vendredi. Donc, ouais, franchement, c'est bien galère. Ça fait pas mal de pertes. Tu te sens un peu solo aussi. Tu te dis déjà, on ne te prévient pas. On a reçu un mail, mais genre 3 heures après avoir eu l'info par nous-mêmes. Et du coup, tu te dis, bah, c'est un peu relou. Surtout qu'en plus, quand tu essaies d'appeler la compagnie, t'as personne. T'attends 40 minutes, au bout d'un moment, tu finis par raccrocher puisque t'en as un peu à le bol. C'est casse-pied.
La campagne des élections européennes du mois de juin, meeting hier soir à Strasbourg de la tête de liste socialiste Raphaël Glucksmann qui a dénoncé la faillite stratégique d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, tiens, qui sera de retour à la Sorbonne aujourd'hui, 7 ans après son grand discours sur l'Europe qu'il avait prononcé dans la foulée de sa première élection. Eh bien, le président reprendra la parole à 11h dans la prestigieuse université parisienne au moment où sa candidate est à la peine dans les sondages, Hélène Terzian.
L'Europe puissance, est-ce la formule waouh évoquée par un ancien ministre et tant recherchée par la Macronie pour marquer les esprits? C'est en tout cas comme ça que l'Élysée présente officiellement l'objectif du discours. L'entourage d'Emmanuel Macron s'évertue à le dire, ce n'est pas l'entrée en campagne du président pour les européennes, mais un discours de chef d'État pour peser sur le prochain agenda européen. Sauf que le timing n'est pas anodin. À un peu plus d'un mois du scrutin, une candidate macroniste à la peine dans les sondages, devancée de loin par le RN, est talonnée par les socialistes. Un poids lourd de la majorité habile répond que ce n'est pas un discours de campagne, mais dans la campagne. Alors autant l'utiliser, selon lui, comme du carburant. Subtil dosage entre le bilan européen du président et sa vision sur la défense, la sécurité, l'économie. Ce qui est sûr, assure ce fidèle, c'est qu'il pense à l'héritage qu'il laissera en Europe.
Colère du Rassemblement National qui dénonce, je cite, une entrée en campagne de la part du président. Nouvelle manifestation pro-palestinienne hier soir à Sciences Po Paris, un mois et demi après un premier rassemblement qui avait fait polémique. Il y avait une cinquantaine d'étudiants, cette fois des tentes ont été installées sur le campus pour suivre le mouvement né des universités américaines. Un club de foot dans la tourmente à 7 dans l'Hérault. Le 7 Olympique FC, soupçonné de communautarisme. Agrément associatif retiré. Subvention coupée pour ne pas avoir développé de section féminine et avoir utilisé jusqu'en juin l'année dernière un emblème de la religion musulmane comme logo. Il y a eu un arrêté du préfet. La justice doit trancher dans ce dossier car le club conteste ces accusations. Ce que nous dit sur place Jean-Wilfried Forquès pour RMC.
Deux équipes seulement dans ce club, les seniors et les moins de 19 ans. À la tête de l'équipe senior, Imad Talbi, le coach, qui regrette les polémiques.
On est là, on a un projet de football. On n'a pas de projet pour l'islam ou pas l'islam, etc. Là, il faut arrêter.
Pourtant, son activité est menacée. Subvention municipale annulée, terrain potentiellement inaccessible à partir de la semaine prochaine. Mais le club montre depuis l'été dernier toute sa bonne volonté, se défend Imad Talbi.
Ils ont voulu qu'on change le logo. Le logo, il a bien été changé. Ils veulent une équipe féminine. On l'aura, il n'y a pas de souci, mais c'est pas une obligation.
Son deux cloches différents à l'hôtel de ville, Hervé Marquez est le maire adjoint chargé des sports. Ce qui passe mal ici, dit-il, c'est l'absence d'une équipe féminine au sein du club.
Refuser ça, c'est déjà un signe d'un refus de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Nous, le sport, à 7, c'est l'inclusion, la mixité sociale. On fait tout ça pour que nos concitoyens vivent ensemble autour du sport. Refuser les femmes sur un terrain de sport, c'est une faute inacceptable pour la ville de 7.
La balle est désormais dans le camp du tribunal administratif. Audience prévue le 16 mai prochain à Montpellier.
Paris en football. Paris va devoir attendre pour décrocher son 12e titre de champion en Ligue 1. Le PSG a gagné 4-1 à Lorient hier soir, mais le titre dépendait du résultat de Monaco, qui a gagné de son côté 1-0 contre Lille. Ça n'empêche pas l'entraîneur parisien Luis Enrique d'apprécier la victoire de son équipe.
On est encore en lice dans toutes les compétitions. Il reste encore un mois avant la fin de la saison. Je suis très content, satisfait, mais je regarde ce qui nous attend encore. On va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes.
L'autre résultat de la soirée, c'est le nul de partout entre Marseille et Nice. Et puis on en parlait hier matin sur RMC. Il y a de plus en plus de centenaires en France. 30 fois plus aujourd'hui qu'en 1970. C'est une étude de l'INED qui nous apprend ça. Alors quel est le secret, Cassandre Brault?
Grande lunette et canne à la main, Roger nous accueille dans son appartement. En novembre prochain, il aura 102 ans.
Et j'ai la chance de pouvoir prier, d'avoir Internet pour être en relation avec beaucoup de personnes. Donc, je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
Ce prêtre de profession veut aussi garder la forme.
Il faut marcher tous les jours. Tous les jours, je marche pendant une demi-heure. Alors, dans la maison, à une canne, et dehors, j'ai un défibrillateur.
Avec une mère décédée à l'âge de 106 ans, Roger pense que sa longévité est génétique, mais il a quand même son petit secret.
Tous les soirs, je prends dans ma soupe de la germaline. C'est du blé. Et ça m'a sauvé la vie pendant la guerre. et j'ai recommencé depuis un an ou deux.
Et que le nombre de centenaires ait été multiplié par 30 en 60 ans, c'est peu étonnant pour lui.
C'est dans l'ordre des choses, puisqu'on est bien soigné. On peut continuer à vivre beaucoup plus longtemps, oui. Si on ne fait pas n'importe quoi, si on ne fume pas, si on ne prend pas d'alcool.
Nouvelle sollicitation pour Roger, des amis qui l'invitent à déjeuner. Pour ce centenaire, avoir des amitiés qui durent, c'est aussi ça, la clé pour garder la santé.
À plus de 100 ans, il est déjà accro au téléphone.
comme quoi, il n'y a pas d'âge. Je ne sais pas s'il était sur les réseaux sociaux ou non, notre ami.
Je ne pense pas.
Peut-être pas. En tout cas, le téléphone fonctionne. Merci beaucoup, Quentin. Bonjour, Manu Le Chypre.
Bonjour à tous.
Ça fait rêver.
Oui, puis surtout qu'il a l'air en forme, là,
bah ouais, notre
ami Roger, là.
Carrément.
Ça avait, avec cette bonne forme-là, ça fait envie.
Ça fait envie, c'est vrai. On verra ça dans quelques années si on en arrive à être aussi en forme que lui. 6h08 sur RMC, on joue ensemble tout de suite.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Comme tous les matins, on joue avec l'actualité, on vous pose une question, vous y répondez et vous repartez avec un joli cadeau. La question du jour, Géraldine.
Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes?
On en parle beaucoup depuis ce matin de cette ville italienne, donc la réponse, vous l'avez forcément entendue. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu, ACTU par SMS au 732-16.
Et un très joli Radio Réveil de la marque Muse à gagner pour vous réveiller avec RMC.
Et le Radio Réveil par chez vous, si vous êtes attentif et si vous avez la réponse à cette question, quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
5 euros pour voir Venise, c'est le ticket d'entrée mis en place à partir d'aujourd'hui. Ça ne concerne pas les touristes, ça ne concerne que les touristes d'un jour, ceux qui ne dorment pas sur place. Une mesure pour éviter les trop fortes affluences. Une mesure qui fait débat. Bonjour, Vangelis Panayotis.
Bonjour.
Expert du tourisme, PDG de MKG Consulting. Votre avis sur cette taxe dans un instant sur RMC. RMC Story, nous serons aussi en direct de Venise avec notre envoyée spéciale Caroline Philippe dans une minute.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
6h12 sur RMC. Bon réveil, on monte à bord d'une gondole tout de suite.
L'invité de Charles Matin.
Direction l'Italie, donc ce matin, car Venise devient aujourd'hui la première ville au monde à faire payer les touristes qui veulent venir visiter la ville. Une taxe de 5 euros par jour imposée aux touristes afin de rendre la ville plus vivable. Bonjour Vangelis Panayotis.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de MKG Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme. On va décrypter cette taxe contre le surtourisme à Venise avec vous dans un instant. Mais d'abord, on va rejoindre notre envoyée spéciale à Venise, Caroline Philippe. Bonjour Caroline. On imagine que vous avez
Martin,
peut-être vu sur les gondoles ce matin. Caroline, expliquez-nous déjà de quoi on parle avec cette taxe, qui doit la payer et surtout comment c'est mis en place.
Alors, la ville de Venise n'a pas installé de portique à l'entrée de la ville, je vous rassure Martin, pendant la nuit. En revanche, aujourd'hui, entre 8h30 et 16h, tous les touristes devront avoir un ticket sous forme de QR code. C'est donc à télécharger et à payer sur Internet 5 euros. Mais il y a des exceptions. Les habitants de la ville et ceux qui y travaillent, évidemment, et les moins de 14 ans. Les voyageurs qui ont au moins une nuit d'hôtel à Venise devront eux aussi le télécharger. Mais pour eux, le ticket sera gratuit. Et dès ce matin, il y aura des contrôles de manière aléatoire dans 5 ou 6 points touristiques de la ville, dont la gare de Santa Lucia où je me trouve. Et si vous ne l'avez pas sur vous, c'est une amende entre 50 et 300 euros. Mais la mairie nous explique que dans les premiers temps, la pédagogie sera de mise. Ce ticket ne sera pas obligatoire tous les jours de l'année, seulement sur 29 dates en 2024, des jours identifiés comme très fréquentés par la ville. Et ça commence aujourd'hui, car c'est férié ici en Italie et suivront ensuite à peu près tous les week-ends de mai jusqu'en juillet. L'idée, c'est de contenir la fréquentation en dissuadant les touristes qui viennent à la journée de choisir ces dates-là en les faisant payer donc 5 euros le ticket.
Et comment on réagit sur place, Caroline? Qu'est-ce que vous disent les touristes, mais aussi j'imagine les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs? Comment on réagit à cette taxe?
Eh bien, ça dépend du portefeuille, Martin. J'ai rencontré des familles françaises hier qui ne sont pas à 5 euros près sur le budget voyage et donc pour qui ça ne pose pas de problème et qui viendront quand même. La seule contrainte pour ces familles, eh bien, c'était d'y penser. Bien oui, parce qu'il faudra désormais vérifier le calendrier avant de venir à Venise. Mais hier, dans les ruelles étroites de la ville, j'ai aussi rencontré des familles qui avaient délibérément décidé de venir avant la mise en place du ticket pour ne pas avoir à payer. D'abord parce que c'est cher, c'est un café, une glace en moins sur le budget de la journée, mais aussi un peu par principe, parce que de payer pour se balader, ça ne passe pas. Pour visiter un monument ou un musée, d'accord, mais pour marcher dans la rue, c'est non. Côté restaurateur et vendeur de souvenirs, eh bien, cette mesure inquiète un peu. Est-ce que ça va dissuader les habitués, ceux qui viennent tous les ans? Est-ce que les gens consommeront moins si une partie du budget passe dans les tickets? Ce sont les questions qui sont beaucoup revenues, mais cette mesure reste une expérimentation. Il faudra donc attendre un petit peu pour voir les effets.
Et on suivra évidemment tout ça. Merci beaucoup, hein, Caroline Philippe, envoyée spéciale d'RMC à Venise. Vangelis Panayotis, je reviens vers vous. On a entendu la façon dont c'est mis en place, on a entendu l'inquiétude aussi des commerçants, de certains touristes. C'est un bon moyen pour lutter contre le surtourisme, cette taxe, on rappelle, hein, Venise, c'est 20 millions de visiteurs l'année dernière, 50 000 habitants.
Oui, enfin, c'est une façon qui a été trouvée parce qu'il y avait une grosse pression de la part des habitants locaux dans lequel ils subissaient beaucoup de dégradations. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup de destinations qui dépensent des millions pour faire venir des touristes. Donc, on se rend compte que finalement, le tourisme est une activité qui est très forte, qui a rebondi de façon significative aux sorties du Covid. Et heureusement qu'on avait du tourisme pour relancer un petit peu la machine, notamment dans les pays d'Europe du Sud. Et là, on a des mesures coercitives qui envoient un message un petit peu mitigé aux touristes du monde entier.
Mais on le voit dans certaines zones, et particulièrement à Venise, c'est peut-être l'exemple emblématique, des rues qui sont bondées, où ça gâche un petit peu le plaisir. Forcément, des touristes, quand on va visiter Venise et qu'on se retrouve dans une rue où on peut à peine passer, bah, c'est pas forcément l'image qu'on avait, en tout cas l'envie qu'on avait en partant là-bas. Est-ce que ça peut permettre, est-ce que c'est logique, est-ce qu'il faut réguler aujourd'hui le tourisme, et est-ce que cette taxe permettrait de réguler un petit peu tout ça?
Alors c'est toujours facile de commenter, hein. Il fallait prendre une décision, ils ont pris cette décision-là. Il faut effectivement réguler les flux touristiques. On sait que souvent ils se concentrent pas sur 365 jours de l'année, ils sont sur quelques semaines et sur quelques endroits. On voit notamment à Paris ou Amsterdam ou Barcelone où il y a aussi ces mêmes phénomènes. Et donc il faut arriver à diffuser le tourisme, donc à créer des points d'intérêt qui sont pas juste 2-3 dans une ville, mais 10-15, élargir tout ça, parce que derrière il y a un écosystème qui est important.
Donc mettre en place des quotas plus qu'une taxe, c'est un peu ça l'idée?
Par exemple des quotas.
C'est ce qu'on fait dans le sud de la France notamment.
Oui, ou essayer justement à l'inverse d'attirer des gens qui seraient venus sur une période de pic pour les attirer sur des périodes d'aile de saison ou de basse saison et de leur redonner de l'attractivité à la destination à ces moments-là.
Quand on a des enfants, c'est pas évident hein, de venir hors saison.
Évidemment, pour les enfants c'est plus compliqué, mais il y a beaucoup de destinations, donc les gens pourraient tourner parce qu'on ne retourne pas chaque année sur la même destination, en tout cas de moins en moins. Et donc effectivement c'est des solutions. On l'a vu dans les Calanques, hein, ils ont mis en place des quotas pour limiter cette pression, et il va falloir prendre ça en compte, évidemment.
Et ça marche?
Alors, en tout cas, les retours sont plutôt intéressants. Et puis après, il y a quelque chose d'un peu philosophique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de gentrifier le tourisme? Est-ce qu'on a envie de dire, finalement, l'accès de plus en plus à des destinations touristiques de premier plan vont être limitées à ceux qui peuvent se permettre et à ceux qui peuvent payer ça? Il y a déjà une segmentation, par exemple, dans l'hôtellerie, entre des palaces ou des auberges de jeunesse, évidemment. Et ça, c'est OK, c'est la loi du marché. Mais pour accéder à une ville, une destination, c'est vrai que philosophiquement, on peut se poser des questions.
Mais on a l'impression que c'est inexorable, qu'on va forcément en arriver là à mettre en place des mesures, alors taxes pas forcément, mais des quotas, des jauges, que le mouvement est lancé, qu'aujourd'hui, ça va forcément arriver, en fait, dans toutes les zones très touristiques.
Il faut prendre un petit peu de recul. Hein. Aujourd'hui, tout va bien. Si demain on a une crise importante, qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, je vous assure qu'on reverra des pubs de Venise dans le métro à Paris. Donc voilà, il faut à chaque moment comprendre où est-ce qu'on se situe. Il faut pas être paradoxal au sens de pendant des années vouloir attirer des touristes et puis tout d'un coup quand on les a à dire, ils sont trop nombreux, on n'en veut plus, parce que sur du long terme, ça envoie des messages qui sont très négatifs. On a une vraie chance d'avoir une industrie touristique qui se porte bien, qui fonctionne bien. On a eu la démocratisation des déplacements avec les low cost en termes d'aviation. On a eu tout un tas de révolutions qui est important. Aujourd'hui, on veut plus remettre en cause ces vacances. C'est quelque chose qui est devenu important pour changer les idées. Pour
il y a une cinquantaine de sites dans le monde qui vont devenir inaccessibles aux touristes moyens. J'ai envie de dire,
le Mont Fuji,
Alhambra de Grenade, je sais pas, ce sera quasiment
même l'Acropole, ouais, même
impossible.
L'Acropole à Athènes, par exemple.
Ouais, Machu Picchu, c'est déjà aussi un peu le cas là. Maintenant, ils régulent.
C'est très régulé. Hein.
C'est une bonne nouvelle pour tous les autres sites qui sont un peu moins connus, qui mériteraient d'être connus et qui vont peut-être retrouver un souffle par effet de débordement sur ces destinations.
Il y a quand même la question de l'environnement, c'est que beaucoup de touristes sur des sites naturels, c'est quand même une catastrophe. Donc il y a un moment, il faut quand même imposer des limites.
Oui, mais c'est aussi aux autorités locales d'être capable d'organiser ces flux, de trouver les bonnes solutions. Donc là, on parlait de la solution qui tape au porte-monnaie, qui est souvent une des plus efficaces parce qu'elle est assez symbolique. Mais il y a probablement d'autres solutions à mettre en place. Il y a plein de choses qui sont à l'étude parmi les offices du tourisme ou autres. Il y a beaucoup de technologies qui vont probablement venir maintenant, parce qu'on parle d'un problème qui est assez récent. Hein. Évidemment, il y a toujours eu beaucoup de fréquentation sur certains lieux.
La technologie, elle peut aider comment?
Ça fait quelques années, et ben justement, en permettant les flux, les QR codes, les inscriptions en avance, les gestions de queue, les différentes. Voilà, il y a probablement dans la gestion de flux, beaucoup de choses qui sont faites. Et en anticipation aussi. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les téléphones portables où on voit les flux qui arrivent parce qu'on voyait que ça concerne les gens qui viennent visiter une journée, mais ceux-là, ils sont dans le bassin autour. Donc, on peut prévoir et anticiper mieux ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on faisait jusqu'à présent.
Le tourisme est donc en train de se renouveler face à ces enjeux-là. Merci beaucoup, Vangelis Panayotis, d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu dans ce studio PDG de MKG Consulting. Merci à vous. 6h20 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Et dans un instant, c'est Manu Conso.
Petit tour du monde des prix de l'électricité et vous allez voir que la France est très chère.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
6h21 sur RMC, c'est l'heure où Manu Le Chypre vous branche.
RMC, Manu Conso.
Manu, tu nous expliques ce matin que les Français sont parmi ceux qui paient le plus cher leur électricité.
Oui, effectivement, la France est le 4e grand pays le plus cher au monde pour les prix de l'électricité. C'est une étude réalisée par Verivox dans 147 pays avec les données de Global Petrol Price, étude publiée par nos confrères des Échos hier. C'est 28,3 centimes le kilowattheure pour les ménages français début 2024. Alors, c'est un peu moins qu'au Royaume-Uni et qu'en Allemagne, et nettement moins qu'en Italie, grand pays le plus cher de la planète, à 41 centimes le kilowattheure. Alors, il ne vous aura pas échappé que si on reste dans le cercle de ce qu'on appelle les grands pays, ce sont les pays européens qui sont les plus chers, puisque par exemple, au Japon ou aux États-Unis, on est à moins de 20 centimes le kilowattheure, sans parler de la Chine, évidemment, 7 centimes seulement, parce que c'est en Europe que l'impact de la crise énergétique a été le plus fort. Donc là, c'était pour les grands pays. Si on prend vraiment les 147 pays, c'est aux Bermudes que l'électricité est la plus chère au monde et en Iran qu'elle est la moins chère.
Ça, ce sont les prix sur les factures.
Oui.
Et quand on regarde le poids dans le budget des ménages, est-ce que la France est toujours aussi mal classée?
Bah oui, parce que ça dépend aussi
du revenu.
Du revenu. Alors, si on prend en compte effectivement les seuls prix, la France est 16e au niveau mondial, 4e, donc on l'a dit, dans les grands pays. Mais si vous tenez compte du pouvoir d'achat, effectivement, la France est 35e. On prend en compte ça. Après, il n'empêche qu'en France, comme en Allemagne d'ailleurs, l'électricité pèse deux fois plus lourd dans le budget des ménages que dans des pays au niveau de vie comparable, comme les États-Unis, le Canada ou les pays scandinaves. Donc il y a bien des raisons spécifiquement allemandes et françaises au fait que l'électricité soit chère. En Allemagne, c'est plutôt quand même le recours massif à l'énergie verte qui est plus coûteuse. Et en France, c'est plutôt les taxes.
Manu Conso, une chronique à retrouver évidemment sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Aurélien.
Bonjour Martin.
Et félicitations, vous avez joué avec nous ce matin, vous avez été tiré au sort et maintenant, eh bien, il va falloir répondre à la question que va vous poser Géraldine Demory.
Quelle ville italienne instaure aujourd'hui un ticket d'entrée à 5 euros pour les touristes?
Venise.
Bravo Aurélien, on en a beaucoup parlé ce matin, il y avait pas mal d'indices dans la matinale d'RMC. Bravo, vous repartez avec un joli cadeau.
Et avec un très bon Radio Réveil de la marque Humus pour vous réveiller avec RMC.
Le Radio Réveil de la marque Humus qui part du côté donc de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Encore bravo Aurélien.
Vous êtes déjà allé à Venise Aurélien?
Non, jamais.
Je vous coupe, je suis désolé, vous avez entendu l'alerte. Alerte jeu pour demain, puisqu'à la même heure, demain, un heureux gagnant sera avec nous pour gratter l'un des tickets RMC et peut-être gagner jusqu'à 26 000 euros. Vous vous inscrivez dès maintenant. Vous envoyez le mot chance par SMS au 732 16. Chance par SMS au 732 16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. Donc faites vite, mais n'oubliez pas, donc 5 minutes. Chance au 732 16. Exactement, on gratte ça demain.
Et on part à Venise.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et à 6h25 sur RMC,
C'est le début d'Apolline Matin. Dans un instant, on va reparler certainement de Venise avec vous. On continue le débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette taxe à 5 euros? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre en place une taxe à 5 euros à Venise? Venez nous le dire. Contre le surtourisme, évidemment. On en parle, évidemment, toute la matinée au 32-16 avec Apolline de Malherbe. Salut, Apo.
Salut, Martin, Géraldine, Manu. Bonjour, tout le monde. Vous m'avez manqué.
Bon retour.
Bah oui.
Ouais, quelques jours de récupération après une semaine où il y avait effectivement le président, le premier ministre. Ça faisait beaucoup de monde. Fallait se remettre de ses émotions. Je suis de retour et dans un instant, c'est Apolline Matin. On va revenir sur ce qui se passe à Venise. Vous en parliez, Martin, à l'instant. Le péage de 5 euros. Alors, c'est pour l'instant assez symbolique, mais c'est l'idée quand même de bloquer en quelque sorte le surtourisme, éviter qu'il y ait trop de monde, récupérer un peu d'argent quand même. Est-ce qu'il faudrait faire pareil en France? On a déjà des quotas. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Vous travaillez dans l'industrie du tourisme, dans le restaurant, les campings, les hôtels. Est-ce que ça aurait un impact pour vous et puis pour vos prochaines vacances? Est-ce que vous allez tenter d'éviter peut-être ces lieux hyper fréquentés? Vous témoignez au 32-16. Et puis à 7h40, on va revenir sur ces contrôleurs aériens, la SNCF, la RATP, toutes les grandes entreprises qui lâchent du lest avant les JO avec ce paradoxe désormais à la SNCF. La réforme des retraites, c'est donc pour tout le monde, sauf pour une partie des cheminots. Partir 18 mois avant l'âge légal, en étant payé 75% de son salaire sans travailler, ce sera désormais possible pour les contrôleurs de la SNCF, puis c'est ce qu'ils ont obtenu, la réforme des retraites avec l'État. C'est fait, ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Vous êtes peut-être dans les dernières années, vous-même, avant la retraite, venez nous dire comment vous réagissez à ce qu'ont obtenu une partie des agents de la SNCF. Ça vous fait réagir au 32-16, et puis on y reviendra donc à 7h40, tout ce qu'obtiennent ceux qui font un peu la menace, le chantage à la grève. Nous sommes le jeudi 25 avril, Apolline Matin, c'est jusqu'à 9h et on commence dans un instant.